Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est donc ce que nous avons lu dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, au verset 7. Des vases d'argile, des vases de terre. Il y a ici un contraste entre la fragilité de ces vases de terre et la puissance de Dieu. Alors, on peut avoir plusieurs attitudes. Soit on regarde la fragilité, on ne peut plus rien faire. Soit alors, on peut dire, mais on est puissant, on peut tout faire. Vous comprenez que la réalité passe entre les deux. En tout cas, qu'est-ce que c'est ce trésor que Dieu a placé dans notre cœur? Nous venons de fêter la Pentecôte, souvenir de la venue de l'Esprit-Saint. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, leur dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » L'Esprit-Saint, l'Esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que Dieu a déposé en nous. Dieu est venu habiter en nous. Et alors nous allons voir ce contraste entre vase de terre que nous sommes et cette puissance extraordinaire de Dieu. L'Écriture nous dit que nous sommes poussière. Dans la Genèse, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et puis, après la chute, voilà que Dieu dit à l'homme, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Vase de terre que nous sommes. Vase de terre, c'est-à-dire fragile. Et nous sommes conscients, je pense, tous ici, de nos fragilités naturelles, mais aussi de nos fragilités causées par la maladie, le handicap ou l'âge qui avance. Je vais souvent dans des maisons de retraite, et récemment nous avons eu, au mois de mai, ce que nous appelons le séjour senior à Binnenberg, et nous en avions, on était 43 seniors. Et puis les uns avaient tel problème, les autres d'autres problèmes, d'audition, etc. Et on dit, voilà, ça c'est la fragilité, notre fragilité, fragilité qui atteint les personnes âgées aussi à cet âge-là. Et le psalmiste exprime cela de manière poignante. Dans le psaume 39, versets 5 à 8, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours ?» Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il sait qu'il recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Que puis-je espérer ? Entrer mon espérance. Vase de terre, fragile, mais notre espérance est en Dieu. Et puis, dans cette marche au quotidien, avec nos fragilités, voilà que nous pouvons regarder, avoir les yeux fixés sur cette fragilité et être complètement paralysés, ou alors regarder vers celui qui est notre espérance. Et nous avons dans l'Écriture, l'Écriture parle beaucoup de ces hommes et femmes que Dieu a appelés et qui ont argumenté pour ne pas accepter la mission. Le premier que nous citerons, c'est Moïse, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici. Voici ce que l'Éternel dit à Moïse dans Exode au chapitre 3 et au verset 9 à 11. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. » Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pourquoi moi? Qui suis-je? Et puis plus loin, Dieu va lui dire, va continuer, parce que Moïse va lui donner tout un tas de raisons pour ne pas y aller, ils ne l'écouteront pas, etc. Et puis Dieu va lui dire, Moïse dit à l'Éternel, donc une fois que l'Éternel lui a dit de partir plus loin, au chapitre 4, versets 10 à 12, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse évoque ici une difficulté réelle. Il n'a pas inventé son problème. Il ne devait pas avoir la parole facile, donc c'était un handicap pour lui. Et pourquoi est-ce que Dieu va prendre un homme comme Moïse, qui n'a pas la parole facile, pour aller parler à Pharaon? Pourquoi Dieu va-t-il prendre un homme fêlé comme Moïse pour aller vers et délivrer son peuple? Dans le passage que nous avons lu, dans le verset 7 du chapitre 4 des deux Corinthiens, il est dit que Dieu, que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et si Dieu a pris un homme comme Moïse, qui n'a pas la parole facile, pour aller vers Pharaon, c'est parce qu'il savait ce qu'il allait faire de ce vase de terre. Il savait ce qu'il avait prévu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas partager sa gloire avec l'homme. Alors, il envoie Moïse. Et Moïse donne tout un tas de prétextes. Des prétextes qui sont vrais. Mais cela veut dire que l'apôtre dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et c'est sûr que si nous regardons à nos vases de terre, il y a de quoi se décourager. Face à l'ampleur du travail, face à l'ampleur du témoignage, face à l'ampleur des problèmes que nous pouvons rencontrer dans le monde et dans nos églises, nous serions complètement paralysés. Mais Dieu va dire à Moïse, et il le dira à Gédéon, et il le dira à Jérémie, « Je serai avec toi. J'entends ce que tu me dis, j'entends tes arguments qui sont justes. Effectivement, tu n'as pas la parole facile. » Il avait peut-être aussi peur de retourner en Égypte, puisque quelques années avant, il avait tué un Égyptien qui avait dû s'enfuir, et qu'il a dû rester 40 ans dans le désert, chez son beau-père, Jéthro, à garder les moutons. Peut-être qu'au bout de 40 ans, où il avait l'impression peut-être d'avoir raté sa vocation, il n'avait plus envie de retourner à l'Égypte. Mais cette phrase de Dieu est importante. « Je serai avec toi. Je te donnerai les paroles que tu dois dire. Tu n'as pas la parole facile, d'accord, mais moi, je vais te donner les paroles que tu devras dire à Pharaon. » Et la suite, nous la connaissons. Nous la connaissons. Et c'est là, justement, tout le problème de la vie par la foi. Dieu appelle. On peut s'imaginer toutes sortes de choses. Mais on ne peut jamais imaginer la solution que Dieu a prévue. Jamais. Et nous le verrons, là, avec Moïse, Gédéon et avec Jérémie. On ne peut pas imaginer. Ce qui est important, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Le reste lui appartient. Et vous vous souvenez, nous vous souvenons tous de la manière dont Dieu a délivré son peuple. Des prodiges, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, dans des situations très difficiles et compliquées, Dieu sera toujours là. Quand le peuple a eu peur, Dieu a dit à Moïse, « Dis-leur de marcher, pourquoi s'écrit dans le camp ?» Pourquoi s'écrit ? important. Et Dieu nous appelle à vivre par la foi. Ce qui est un peu important, c'est que nous soyons dans la volonté de Dieu et que nous répondions à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle, la première chose que nous devons faire, c'est de dire oui. Vous connaissez l'histoire de Moïse, hein? Il a dit à la fin, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. » Et puis Dieu lui a adjoint son frère Aaron. On connaît toutes les difficultés qu'il y a eu avec Aaron. Le premier projet, je dirais le projet A, le plan A, a été remplacé par un plan B, et les plans B ne sont jamais les meilleurs. En tout cas, que cela soit pour nous ce matin un encouragement dans nos engagements mutuels les uns et les autres. Et puis là, le deuxième exemple que je citerai ce matin, c'est celui de Gédéon. Cet homme qui vivait dans ce pays occupé, exploité par les Madianites, voilà que Dieu va lui apparaître alors qu'il était en train de préparer sa semence, son blé, sa nourriture, pour le cacher, pour que les Madianites ne le prennent pas. Voilà que Dieu va apparaître à cet homme au chapitre 6 des Juges, à partir du verset 11. Chapitre 6 des Juges, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébent d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Petit, le plus petit de la famille la plus petite de la tribu la plus petite en Israël, etc., etc. Fragilité. Moi, je ne suis qu'un vase de terre. Je suis le dernier. Pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me chercher pour aller faire quelque chose d'absolument incroyable? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Cet homme ignorait que dans ce vase de terre, Dieu allait déposer quelque chose d'extraordinaire pour qu'il soit l'instrument d'une grande délivrance. Pourquoi moi? Ben oui, parce que Dieu a choisi, parce que Dieu a dit que, parce que... Et là, c'est raison. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et puis, comme Gédéon, semble-t-il, était un homme de guerre et savait qu'on ne pouvait pas battre une armée avec les épées ou avec je ne sais pas quoi. Il a tout préparé. Des hommes en grand nombre. Des armes en grand nombre. Il fallait bien affronter cet ennemi. Et puis Dieu lui dit, c'est trop. Il ne devait rien comprendre. Et finalement, il est parti avec une poignée d'hommes, avec des cruches, des flambeaux et des trompettes. Drôle de façon de faire la guerre. Mais les moyens de Dieu nous étonneront toujours. Les moyens de Dieu nous étonneront toujours. Et cet homme, Gédéon, devait se dire, mais c'est pas possible, c'est complètement fou. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, nous dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Et c'est avec cela que Dieu va opérer une délivrance totale. Alors, Gédéon ne pouvait pas se dire, ben, nous avons vaincu parce qu'on avait une armée forte, des armes sophistiquées, etc. Il ne pouvait plus le dire. Parce qu'il était manifeste que Dieu était intervenu et que c'est lui qui a trouvé la solution. On ne peut jamais imaginer la manière dont Dieu interviendra dans nos vies. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui dans vos vies personnelles ou de l'Église. On ne peut jamais imaginer la manière dont Dieu va intervenir. Ça nous dépasse complètement. Mais on est sûr d'une chose, c'est que Dieu interviendra. En son heure, il interviendra. Et de quelle manière? Ici, avec quelque chose de complètement dérisoire, Dieu a délivré son peuple des Madianites. Que cela soit pour nous, chers amis, un encouragement dans nos combats au quotidien. Parce que lorsque nous ne lutterons plus, on ne sera plus là. Tous les jours sont faits de combats et de luttes contre toutes sortes d'agressions, soit spirituelles, soit physiques. Dieu avait la solution et il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et puis le dernier exemple que nous citerons, c'est celui de Jérémie. Vous connaissez Jérémie? Ce prophète qui s'est beaucoup plaint dans sa vie. D'ailleurs, il a un livre qui s'appelle les Jérémiades. Non. Les Lamentations de Jérémie, ce qui a donné en français le nom de Jérémiade. Il s'est beaucoup plaint parce que Dieu l'a appelé à un travail difficile, une mission très difficile, et il a fallu qu'il combatte cet homme, ce pauvre Jérémie. En tout cas, dans le chapitre 1 de Jérémie, versets 4 à 10, il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, donc à Jérémie, la parole de l'Éternel nous fut adressée en ces mots, « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et puis plus loin, au verset 17, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il est réconfortant et encourageant de voir que Dieu connaissait Jérémie avant sa naissance. Qu'avant sa naissance, il avait déjà établi prophète des nations. Ça nous dépasse, mais c'est dans le plan de Dieu et dans son économie. Et puis voilà que Jérémie, lorsqu'il a été appelé, il semble qu'il était jeune homme, il a été conscient du fait qu'il était vase de terre. Je ne sais point parler, un peu comme Moïse. Hein. Je suis un enfant. Et puis, il y a parfois des gestes comme ça de Dieu qui touchent la bouche de Jérémie. J'ai touché ta bouche, je t'ai donné la parole, etc. Et puis ce vase de terre, qu'est-ce que Dieu va en faire? Dieu dit à Jérémie, voici, je t'établis comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain. Vous voyez le contraste entre le vase de terre, ce Jérémie jeune que Dieu appelle, il va en faire quoi? Une colonne de fer. Et ça, ça vient de Dieu. Sauf Dieu peut opérer une telle transformation. Utiliser les vases de terre pour en faire des colonnes de fer, pour son œuvre. Pour en faire des villes fortes, pour faire des murs d'airain. Tu te sens faible, pauvre, sans beaucoup d'expérience? Dieu a un projet pour toi, un projet extraordinaire. Et nous n'avons aucune raison de ne pas le croire. Il sait de quoi nous sommes faits, nous dit le psalmiste. Il se souvient que nous sommes poussière. Et pourtant, de cette poussière, il veut faire quelque chose. Et le psalmiste, plus loin, dira, il relève le pauvre, du fumier relève le pauvre, de la cendre, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. C'est le Dieu qui transforme. C'est Dieu qui utilise nos faiblesses pour nous transformer et en faire quelque chose à sa gloire. Et c'est important de s'en souvenir lorsque nous serons confrontés à nos difficultés, à nos limitations, qui sont réelles, de nous souvenir que Dieu veut faire de nous quelque chose pour lui, pour sa gloire. Dieu veut faire de nous des colonnes de fer. Dieu veut faire de nous des témoins qu'il utilisera pour sa gloire. Et nous n'avons pas de raison de nous focaliser sur ce que nous sommes, les vases de terre que nous sommes. Parce que Dieu a la solution. Et lorsque Moïse s'est focalisé là-dessus et a dit à Dieu, envoie qui tu voudras. C'est rare que Dieu se fâche contre ses enfants, mais il s'est fâché contre Moïse. Pour lui dire, écoute, avec tout ce que j'ai mis devant toi, avec les miracles, avec etc., etc., tu refuses d'y aller. Dieu se fâche. Parce que Dieu a tout prévu pour nous, pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est important de nous le rappeler et de nous encourager mutuellement. Je pense à, par exemple aux jeunes. Je dis parfois, vous serez certainement confrontés aux problèmes auxquels nous avons certainement tous été confrontés. On se sent complètement perdu. Mais je dois vous dire que moi j'ai fait mes études à Paris venant du Sénégal. C'est un peu le décalage qu'il peut y avoir. Et puis, je pourrais en parler, la manière dont le Seigneur m'a secouru, m'a aidé, m'a porté dans les moments très difficiles, dans les moments de joie, etc. Et avec le recul, je dis, le Seigneur a été bon. Il a tellement été bon. Vase de terre, venant de loin, perdu dans cette immensité de Paris. Et Dieu a pris soin. Et c'est important. Vase de terre, oui, mais avec la puissance de Dieu, nous ferons des merveilles. Il y a l'église de Philadelphie dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Parce que tu as peu de puissance et parce que tu as gardé ma parole, je te garderai le jour de l'épreuve. Peu de puissance, tu as gardé ma parole, je te garderai. Et puis on pense à des personnes qui n'avaient pas beaucoup de force non plus. Je pense à Siméon et à Anne dans Luc chapitre 2 verset 25 à 38 lorsque ils sont venus, Marie et Joseph sont venus pour présenter Jésus au temple. Il y avait ces deux personnes qui étaient là. Il nous a dit qu'Anne servait Dieu nuit et jour. Elle avait 84 ans. Vous vous rendez compte dans le temps, 84 ans, c'était plus que 100 ans aujourd'hui. Et elle servait le Seigneur nuit et jour. Et l'Esprit de Dieu a parlé à Siméon, va au temple, tu vas rencontrer le Messie. Donc, la vieillesse n'est pas un critère pour ne pas baisser les bras. Rien ne peut nous empêcher de servir le Seigneur, quel que soit notre âge. Et puis alors, nous terminerons par ce beau message, ce beau passage de 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul, éprouvé, a demandé à Dieu d'intervenir. 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 7. Voilà que l'apôtre Paul, qui semble-t-il avait des problèmes de vue, voilà que Dieu va lui permettre à ce vase de terre d'accéder à des choses extraordinaires. Il est allé jusqu'au ciel, il a entendu des choses extraordinaires, il a dit, il n'est même pas permis à un homme de les répéter. Ça, c'est extraordinaire. Vase de terre. Et puis au verset 7, il dira, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un peu compliqué cette affaire. Un peu compliqué. Voilà le grand apôtre, l'apôtre Paul, que Dieu a saisi alors qu'il se sentait fort. Alors qu'il se sentait fort, Dieu a dû le briser. Et ensuite, il a pu être utile à l'œuvre de Dieu. Vous savez, la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'était le cas de l'apôtre. L'apôtre a été saisi par Dieu, et il raconte donc là dans ce chapitre ce qu'il a vu au ciel. Et à cause de l'excellence de ces choses, Dieu va lui mettre une écharpe pour le brider. On ne comprend pas beaucoup, mais c'est une réalité. Il le bride, et Paul prie 3 fois à Dieu, prie 3 fois à Dieu pour qu'il lui enlève cette écharpe, et Dieu ne l'a pas fait. La seule réponse qu'il lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui. Que devait-il faire de cela? 8 vases de terre, un handicap qui apparemment le fait souffrir. Ma grâce te suffit. Et il devait vivre par la foi. Alors, l'apôtre tire de cette situation, cette conclusion. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis conscient de mes limitations, quand je suis conscient du fait que je suis un vase de terre fragile, alors je me tourne vers celui qui a la force. Alors je me tourne vers ce Dieu qui donne. Alors je me tourne vers le Dieu fort. Je me tourne vers celui qui habite en moi par son Esprit Saint. Et alors je suis fort. Fort de la force de Dieu. Fort parce que c'est lui qui me fortifie. Fort parce que je vais avec la force que j'ai, celle qu'il me donne. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, c'est notre lot à tous, la fragilité, le fait d'être vase de terre. Mais nous avons à notre disposition une force extraordinaire, celle de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et lorsque Jésus part, s'en va, il dira qu'en mon nom ils feront ceci, en mon nom ils feront cela. Et c'est cela que Dieu nous met à notre disposition, pour que nous puissions avancer. Pas forcément en chantant tous les jours, mais dans la confiance, en persévérant dans la confiance et dans la foi, en ce Dieu qui nous a appelés et qui nous a donné à tous quelque chose à faire ici-bas, avant de retourner vers la maison du Père.